bonjour, ravi de vous retrouver pour le magazine du week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h50 pour discuter de l'actualité ici dans le monde avec nos invités. Bienvenue à tous. Faut-il attiser ce qui semble être les derniers feux de l'industrie pétrolière alors que les géants du secteur ont perdu des dizaines de milliards de dollars pendant et après la crise sanitaire? Il y a ceux qui veulent les aider à sortir de l'ornière comme Donald Trump. Il y a aussi ceux qui veulent les encourager à en profiter pour rediriger leurs investissements vers les énergies renouvelables. Nous en parlons avec nos invités aux alentours de 13h20. Pour commencer, on les appelle justement le pétrole du 21e siècle. Ce sont les données de santé. Et nul besoin de forer en haute mer pour les trouver. Les données de santé sont partout, des chiffres, des textes et des images. Informations disparates, de plus en plus réunies en de gigantesques bases auxquelles les logiciels d'intelligence artificielle tentent de donner du sens pour mieux connaître et in fine mieux soigner les pathologies. Ainsi en va-t-il du gigantesque Health Data Hub, l'immense plateforme d'exploitation des données de santé créée en décembre dernier par le ministère de la Santé. Une plateforme qui a choisi le géant américain Microsoft pour héberger ces données et qui, pendant la crise sanitaire, s'est vu confier des prérogatives inédites, le droit de stocker de nouvelles catégories de données médicales, ceci au nom, comme on l'entend souvent, de l'intérêt général et du bien commun. Mais jusqu'où est-on prêt à céder ces données intimes? Le coronavirus a-t-il fait sauter les digues de l'anonymat et de la prudence? Nous recevons trois invités pour en débattre, dont la directrice de Health Data Hub. Bonjour Stéphanie Combe.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. C'est donc vous qui dirigez cette plateforme placée sous l'autorité du ministère de la Santé et qui doit centraliser des données de santé françaises à des fins de recherche. Nous sommes également en ligne avec Jean-Paul Hamon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste et président d'honneur de la Fédération des médecins de France et nous sommes en studio avec Yoann Naba. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doctorant en droit pénal et sciences criminelles à l'Université de Bordeaux et vous avez publié en début de semaine un long article sur le site de The Conversation, fichier sanitaire, un destin tracé vers la surveillance généralisée, point d'interrogation. Alors je dirige cette première question vers vous Stéphanie Combe. Vous avez en pleine crise sanitaire bénéficié d'un arrêté gouvernemental qui élargissait les prérogatives de la plateforme que vous dirigez, le Health Data Hub, pour mener des projets de recherche contre le coronavirus. Quel usage en avez-vous fait déjà, là d'ores et déjà, au mois d'août?
Alors, merci beaucoup de m'avoir invité. Donc effectivement, la plateforme des données de santé, elle a été créée, peut-être pour le rappeler, par la loi Organisation et Transformation du Système de Santé du 24 juillet 2019. Et elle a vocation, en fait, à permettre des projets d'analyse de données de santé innovants visant l'intérêt général. Donc suite à cette loi, un décret d'application doit être pris qui est prévu pour la fin du mois d'octobre. Et cet arrêté gouvernemental auquel vous faites référence a simplement permis d'accélérer finalement la mise en place de cette structure et de ces activités, mais qui était bien celle qui était prévue initialement, donc c'est-à-dire permettre la réalisation de tous ces projets de recherche.
Mais c'est quand même un arrêté qui vous donne le droit de stocker de nouvelles catégories de données médicales, et lesquelles ?
Alors, c'est un arrêté qui nous permet de stocker des données relatives à l'épidémie, mais qui sont bien comprises dans ce qu'on appelle le système national des données de santé, qui regroupe finalement l'ensemble des données de santé reliées à un remboursement de l'assurance maladie, tel que prévu par la loi de juillet 2019. Donc, ça nous a permis d'accélérer un petit peu notre feuille de route initiale, mais ça n'élargit pas réellement les prérogatives de la plateforme telles qu'elles avaient été imaginées. Et ce qu'on appelle, nous, l'entrepôt Covid, donc c'est-à-dire la réunion de ces bases relatives à l'épidémie, a bien vocation à faire partie du catalogue beaucoup plus large de la plateforme des données de santé, qui, lui, sera mis en œuvre plutôt en fin d'année.
Alors, en quelques mots, quel projet avez-vous pu lancer à la faveur de cet arrêté dont on comprend, c'est ce que vous nous dites, Stéphanie Combe, qu'elle n'a pas non plus créé de nouvelles prérogatives pour cette plateforme?
Exactement. Alors, grâce à cet arrêté, on a pu réunir des premières données. Donc, les premières données, c'était celles des passages aux urgences de Santé publique France qui ont pu être mises à disposition dès la fin du mois d'avril aux équipes du ministère de la Santé pour étudier notamment le non-recours aux soins au niveau des urgences pendant la période du confinement. Et on a à l'heure actuelle une dizaine de projets qui sont en cours d'instruction auprès de la CNIL pour pouvoir étudier différentes facettes de l'épidémie, donc que ce soit mieux comprendre les profils à risque ou bien décortiquer les parcours de soins ou développer des outils d'aide au diagnostic des Covid graves, etc. Il faut bien comprendre que cet arrêté nous a permis, nous, de recueillir et d'héberger les données pour les mettre à disposition des porteurs de projets, mais que ces porteurs de projets, eux, doivent être pleinement autorisés pour pouvoir traiter les données sur la plateforme technologique du Health Data Hub. Ça n'est pas du tout de l'open data, par exemple.
Alors, on y reviendra. L'arrêté gouvernemental a été attaqué par 14 associations, experts et médecins auprès du Conseil d'État, lequel les a retoqués, et on reviendra plus longuement sur leurs griefs. Jean-Paul Hamon, est-ce que les médecins ont été obligés, de bonne ou de mauvaise grâce d'ailleurs, de communiquer les données de santé dont ils disposaient et à qui ? C'est-à-dire, est-ce que pendant la crise sanitaire, vous avez eu cette mission-là a été renforcée ? Est-ce qu'on vous a demandé de coopérer davantage ?
C'est-à-dire qu'on a coopéré volontiers, on a coopéré volontiers avec la Caisse d'assurance maladie, notamment pour le fameux projet de tracing des patients déclarés positifs. De ce côté-là, on n'a pas eu d'état d'âme parce que on sait qu'avec la Caisse d'assurance maladie, on a des relations depuis très longtemps et qu'ils sont tenus au secret médical et qu'on n'a jamais eu de viol de secret médical de la part de la Caisse d'assurance maladie. Donc ce projet de tracing est arrivé tardivement parce qu'on a pensé un peu tard à l'utilité des médecins généralistes dans la gestion de cette crise. Mais oui, effectivement, on l'a fait avec la Caisse d'assurance maladie et le service médical de l'assurance maladie a pris contact avec les patients qui avaient été en contact avec les personnes positives et que on se rend compte que ce système-là est efficace, même s'il est largement perfectible.
Voilà, pour l'instant, il faut rappeler que le système national des données de santé qui existe déjà est une base de données qui rassemble les données de l'assurance maladie, les données qu'on appelle de facturation, c'est celle qui indique quel acte a été pratiqué, quel médicament a été prescrit, à quel tarif, enfin, toutes les informations dont a besoin l'assurance maladie. Yoann Nabat, qu'est-ce qui a été autorisé en plus au nom de la lutte contre l'épidémie, qui ne l'était pas jusque-là?
Alors en réalité, ce sont deux traitements de données, donc deux fichiers qui ont été mis en place par la loi prolongeant l'état d'urgence, donc la loi du 11 mai 2020. Ces deux fichiers qui ont en fait été évoqués implicitement par Monsieur Hamon, c'est le fichier SIDEP qui en fait contient toutes les données des tests PCR qui sont réalisés, à la fois les tests positifs bien sûr, mais aussi tous les tests négatifs. Les données restent dans le fichier. Et le deuxième traitement de données qui a été créé par cette loi, c'est le fichier contact Covid, qui lui comprend les données à la fois du patient zéro, c'est-à-dire de celui qui est allé voir son médecin en disant a priori j'ai des symptômes et j'ai le coronavirus, qui a été déclaré positif, et ensuite sur lequel on fait cette fameuse enquête de contact tracing pour essayer de récupérer tous les contacts des individus qu'il a pu croiser et qu'il connaissait, donc il est à même de donner. C'est ce fichier qui est peut-être le plus problématique parce que il sera à disposition pas seulement de médecins, pas seulement de professionnels de santé, mais des brigades sanitaires, les fameuses brigades d'anges gardiens qui ont été mis en place, alors qui sont certes rattachés à la Caisse primaire d'assurance maladie, mais qui, donc ce sont tous des gens qui sont assermentés parce qu'ils travaillent à l'assurance maladie, mais qui ne sont pas tous néanmoins des professionnels de santé. Et là aussi, simplement, où c'est problématique, c'est que on nous a dit que ces fichiers ne contenaient donc que la positivité ou non au coronavirus et les données personnelles. C'est faux, parce que on trouve aussi, par exemple, dedans la spécialité du médecin qui a prescrit le test, et la spécialité du médecin, elle peut bien sûr traduire une pathologie que vous avez.
Si par exemple, c'est un oncologue.
Exactement. Un oncologue, on sait que vous avez un cancer. Donc ça, ce sera ça, évidemment, c'est problématique. Il contient aussi simplement aussi le statut du patient, s'il est hospitalisé ou non, les lieux qu'aurait fréquenté le patient, type maison de santé, etc. Donc il contient beaucoup de données qui vont au-delà des données qu'on présente habituellement.
Stéphanie Combe, comment est-ce qu'on a pu collecter en 3 mois des données fiables quand déjà dans chaque CHU, chaque hôpital qui dispose d'un système d'information avec des équipes qui fournissent des données qu'on dit propres, on met déjà beaucoup de temps à le faire avec des systèmes d'information souvent vieillissants, qui existent depuis 20 ans. En gros, dans les hôpitaux, les informations qui travaillent sur ces données, ils vous disent qu'entre le moment où elles sont collectées et le moment où elles sont récupérées pour être analysées, il faut à peu près 5 ans.
Oui, alors c'est vrai qu'en tous les cas, pendant la crise sanitaire, on a vu quand même une effervescence des projets autour de la collecte des données et une accélération de leur remontée. Donc là, on a évoqué SIDEP, qui est un système d'information qui a été mis en place par le ministère dans un temps extrêmement court, mais qui n'existait pas auparavant. On a également le flux qu'on appelle Fast Track SNDS, qui est une version finalement un petit peu plus rapide du SNDS qui va remonter. En fait, c'est les données de facturation hospitalière, le PMSI, qui sont codées par les médecins DIM, qui remontent de manière plus rapide pour pouvoir donner une visibilité sur l'activité hospitalière et qui sont ensuite chaînées avec les données de l'assurance maladie de consommation de soins. Et ça, c'est pareil, c'est une partie de l'arrêté d'ailleurs que vous avez évoqué qui a permis de mettre en place ce traitement ad hoc finalement, donc une adaptation d'un traitement existant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, c'est ce que vous dites, si on fait remonter plus rapidement certaines données, ce sera parfois au prix de leur qualité, mais dans un temps de crise, on a aussi besoin d'avoir des éléments factuel qui remonte à la vitesse de la décision.
Et comment on fait pour ça? Quand on parle de manque d'effectifs dans les hôpitaux, on parle beaucoup des soignants, mais les informaticiens ne sont pas en reste. Et Jean-Paul Hamon, les canaux de transmission des données pour la médecine de ville ne sont pas très opérants aujourd'hui.
Si vous voulez parler du DMP, oui, effectivement, c'est pas opérant du tout. C'est quelque chose qui traîne depuis maintenant 2004, qui a dû coûter quelque chose comme 500 millions d'euros. Et actuellement, les logiciels métiers, ceux qu'on utilise pour gérer les fichiers des patients dans nos cabinets, ne se connectent pas de façon ergonomique au DMP. Et actuellement, le DMP a une indexation. Aléatoire.
Le DMP, c'est le dossier médical.
Ah oui, le dossier médical partagé qui avait été rebaptisé en 2004 le dossier mal parti et ça se confirme. Et donc il y a aucune utilisation ergonomique et franchement c'est un sac dans lequel on enfourne des données qui sont inexploitables car il y a une indexation qui est très 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 mal fichue.
Est-ce que ça vous pose problème, Jean-Paul Hamon, que alors ce que Yoann Nabat disait tout à l'heure, qu'aujourd'hui soit transmise la spécialité du médecin qui ait ordonné un test de coronavirus?
Oui, et puis d'ailleurs pour moi c'est une révélation parce que pour moi il n'y avait que le médecin traitant qui pouvait transmettre la positivité du patient.
Apparemment.
Là effectivement pour moi je l'apprends et effectivement ça pose effectivement un problème. Ceci étant, c'est la caisse d'assurance maladie qui gère et je dois dire que en 48 ans d'exercice le service médical de l'assurance maladie n'a jamais été mis en défaut pour trahison de secret médical. Donc moi j'ai une entière confiance dans la caisse d'assurance maladie dont tous les salariés sont assermentés.
Alors Stéphanie Combe, pour que ce soit bien clair, qu'est-ce qu'elles deviendront les données collectées par le Health Data Hub pendant la crise sanitaire? C'est-à-dire que la CNIL elle fixe un cadre d'utilisation des données, notamment leur durée d'utilisation. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment vous allez devoir les détruire?
Alors, justement, donc, on a ces bases qui sont relatives à l'épidémie que nous, on appelle entrepôt Covid, et puis on a ce qu'on appelle le catalogue. Donc, c'est la collection des entrepôts plus larges, qui sont pas propres que à l'étude de la Covid, qui vont être copiés et partagés grâce à la plateforme technologique du Health Data Hub. Donc, l'entrepôt Covid a vocation à faire partie de cette collection plus générale de données, puisque le texte prend fin au 30 octobre et que d'ici là, le décret relatif au SNDS qui va permettre d'inscrire l'activité plus large du Health Data Hub dans la pratique sera pris justement pour sécuriser la conservation de ces données. Puisque les travaux de recherche et les travaux épidémiologiques qui vont permettre de mieux comprendre les parcours de soins, les profils à risque, l'efficacité des traitements, etc., eux ne peuvent pas se conduire en seulement quelques semaines. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, la plupart des projets sont en cours d'instruction par la CNIL, donc ils ne vont démarrer que dans les prochaines semaines. Donc on va avoir nécessairement besoin de les conserver sur des durées un peu plus longues, des durées qui sont plus propres proche de la recherche que celle du pilotage.
Johan Naba.
Et c'est là où la CNIL montre un peu la précipitation du décret d'avril, parce que effectivement, et vous l'avez évoqué Stéphanie Combe, il faudra un nouveau décret pour permettre que les données actuellement collectées soient conservées après le 30 octobre. Alors que si on avait vu les choses de manière un peu plus réfléchie, qu'on avait pris le temps de poser les décrets comme le souhaitait la CNIL, hein, le calendrier d'application du ELSAT Hub était quand même normalement sur un temps un petit peu plus long. Si on avait pris le temps, on n'aurait pas été obligé comme ça de... Parce que là, on récolte quand même des données en disant aux patients, on va les conserver que 3 mois pour vous, 6 mois anonymisés. Et en fait, finalement, on apprend que non, elles vont rester plus longtemps sur ELSAT Hub que c'était prévu au départ. Donc, d'un point de vue de consentement, même si on ne consent pas pour ça, mais d'un point de vue pour le patient, ça me paraît problématique.
La CNIL qui parle, qui évoque plusieurs problèmes liés à cette plateforme, ELSAT Hub, et notamment la question de l'anonymat des données. On ne parle plus d'ailleurs, Stéphanie Combe, d'anonymat, on ne parle plus d'anonymisation, mais de pseudonymisation des données. Et ça veut dire quoi ?
Alors, je voudrais juste revenir une demi-seconde sur le calendrier législatif, hein, qui est connu depuis le départ. Alors, et effectivement, ça peut porter à confusion qu'il y ait plusieurs publications de textes, mais le décret SNDS, il a été prévu dès la publication de la loi en juillet 2019. Ça n'est pas un nouveau texte, c'est un texte qui était déjà en cours de rédaction, sur lequel il y avait déjà eu des échanges informels avec la CNIL depuis décembre 2019, mais qui a pris un peu de retard du fait des événements de la crise qui ont beaucoup peut occuper tous les services du ministère et on le comprend bien. Donc effectivement, nous on parle de pseudonymisation et pas d'anonymisation, puisque l'anonymisation, pour qu'elle soit totale, nécessite d'agréger les données et finalement elle va permettre de faire des comptages qui sont assez génériques, par exemple des comptages de patients, des comptages d'actes, mais qui sera pas du tout pertinente pour faire de la recherche au niveau fin, par exemple de la recherche médicale. On va chercher à mesurer l'efficacité d'une prise en charge. Pour ça, on va s'intéresser à toute la séquence des événements médicaux pour un patient donné. Donc les chercheurs n'ont pas besoin de savoir qui est le patient, ils n'ont pas besoin de l'identité du patient, mais ils ont besoin de données qui sont à une granularité très fine, donc à l'échelle des patients. Donc on va avoir des chroniques de parcours de soins pour chaque patient, mais ces patients-là, on n'aura pas leur identité. Donc c'est ça qu'on appelle données pseudonymisées. Les données qu'on appelle directement identifiantes, comme le nom, prénom, numéro de sécurité sociale, etc., tout ça est supprimé.
Un informaticien de l'assistance publique hôpitaux de Paris, la PHP, m'expliquait par exemple qu'une base de données pseudonymisées, c'est comme une bibliothèque où pour chaque livre, on aurait effacé le nom de l'auteur, tout le reste y est, donc c'est vrai qu'il suffit de connaître un peu Balzac pour reconnaître Balzac, etc. Il suffit de croiser un petit nombre de données pour identifier un patient. En tout cas, la pseudonymisation, vous n'y croyez pas, Johan Naba ?
Mais c'est pas que j'y crois pas, c'est qu'en tout cas, il faut bien avoir conscience qu'une donnée pseudonymisée reste une donnée personnelle sensible, là comme il s'agit de données de santé. Et il y a plusieurs études qui ont montré que les données pseudonymisées pouvaient être réidentifiées assez facilement, avec quelques éléments seulement. Or là, pour le Health Data Hub, comme on mélange plein de bases de données, par définition, on a beaucoup d'éléments sur chaque patient, et donc il devient plus facile de réidentifier. Donc la pseudonymisation, c'est à utiliser quand même avec... il faut y faire attention, quoi.
Et ça dépend aussi des producteurs de données, entre guillemets, Jean-Paul Hamon, des médecins. C'est à eux aussi de faire attention quand ils envoient un document de donner le moins d'informations possible sur un patient, ou au contraire, ça annule les bénéfices d'une telle base de données.
Alors là, je regrette pas d'avoir participé à cette émission parce que je suis en train de m'instruire quand même là. J'apprends que des médecins autres que les médecins traitants peuvent renseigner la positivité sur le Covid. J'apprends que les données de santé qui sont récoltées à cette occasion vont être stockées et prolongées, alors que vraiment je pensais que ça ne servait qu'au suivi de l'épidémie.
C'est vrai que vous étiez assez enthousiaste sur le Health Data Hub, mais donc vous avez l'impression que vous n'étiez pas assez renseigné.
Non, je suis modérément enthousiaste parce que je sais où ces données-là sont hébergées maintenant. Elles vont être hébergées chez Microsoft parce que le gouvernement s'est précipité, et alors qu'on aurait pu faire, on aurait pu prendre le temps une année ou deux, voire trois, pour vraiment avoir un stockage au moins européen, sinon français.
Stéphanie Combe va y répondre.
Et au moins avoir des garanties, et avoir des garanties sur le devenir de ces données, parce que effectivement, bon, on sait que des données croisées, l'anonymisation est tout à fait relative et on peut retrouver ça. Mais franchement, les médecins sont très sensibilisés effectivement à cette histoire de d'anonymisation des données, et on est effectivement de plus en plus inquiet. Et autant j'étais enthousiaste à l'idée de participer au ciblage de cette épidémie et à contenir l'épidémie en identifiant les cas contacts, autant je suis un peu inquiet à ce que j'entends actuellement.
D'ailleurs, est-ce que vous savez, Jean-Paul Hamon, que, alors on ne parle pas du tout de Microsoft ni du Health Data Hub, mais quand les médecins, il y a beaucoup de médecins, je crois, qui utilisent la boîte Gmail, et déjà on est dans une problématique. Enfin, quand un patient envoie un mail à un médecin, les données appartiennent quand même à l'entreprise américaine. C'est un livre ouvert. Toutes les grosses entreprises savent qu'elles ne doivent pas utiliser Gmail pour leurs informations sensibles. Est-ce que vous avez une boîte Gmail, Jean-Paul Hamon?
Non, j'ai une boîte Gmail, mais je ne l'utilise pas. Et je ne communique par mail avec mes patients que de façon totalement exceptionnelle. Et on a, moi, j'utilise personnellement une messagerie qui est totalement sécurisée, qui s'appelle Apicrypt et qui a été, qui existe depuis 98 et qui est totalement cryptée. Donc là-dessus, on communique entre médecins et entre biologistes, radiologues, chirurgiens et médecins. Tout ça, c'est intégré directement dans mon dossier patient et je ne communique aucune donnée avec mes patients. On se téléphone, mais on ne communique pas par mail.
Stéphanie Combe, Jean-Paul Hamon a évoqué la question de Microsoft. C'est vrai que c'est la question qui fait le plus débat dans la mise en place de cette plateforme Health Data Hub. Comment votre choix s'est porté sur ce géant américain pour l'hébergement des données? Je rappelle, on parle là ni de la collecte ni du traitement, mais l'hébergement des données.
Oui, je vais vous répondre immédiatement, mais je voudrais juste rebondir. Je suis désolée sur la question de la pseudonymisation, parce que je pense que c'est très important de faire cette distinction et de la vulgariser, mais il faut bien comprendre que tout le monde a conscience dans le milieu du traitement de la donnée de santé de cette distinction, c'est-à-dire que c'est précisément parce que les données sont pseudonymes et que elles sont potentiellement réidentifiables que le niveau de sécurité requis pour les traiter, la traçabilité, la double authentification, etc., est extrêmement élevé. Donc, c'est pas une erreur de jugement entre anonymisation et pseudonymisation. On a conscience qu'on a besoin de données très granulaires pour mener à bien ces recherches, et c'est pour cette raison que les conditions de sécurité qui sont mises en face sont très élevées et sont instruites de très près par l'ANSSI, la CNIL, etc.
Alors, donc Microsoft.
Sur le choix de Microsoft.
Est-ce qu'il y avait urgence à décider d'un hébergeur, se demandait Jean-Paul Hamon.
Alors, ça, c'est libre à chacun d'estimer si la recherche en santé est une priorité ou pas. Moi, à l'époque, j'étais chef de projet au ministère de la Santé et on venait donc de rendre le rapport de la mission de préfiguration du Health Data Hub à la ministre à l'époque, Agnès Buzyn, mi-octobre 2018. Et elle nous a confié la mise en place de cette plateforme, nous demandant d'avoir des premiers résultats pour la fin de l'année 2019 dans un contexte extrêmement concurrentiel sur l'intelligence artificielle et la santé. On voyait déjà au printemps 2018 des premiers dispositifs médicaux intégrant de l'intelligence artificielle certifiés aux États-Unis. Donc ça va extrêmement vite dans des pays aussi où les échanges de données se font parfois de façon plus fluide. Donc nous, dans ce contexte-là, on a analysé les différentes offres technologiques qui existaient par rapport aux besoins du Health Data Hub. Donc pour ces besoins, on parle évidemment de traitement de données massif. Donc il nous faut des outils technologiques qui sont capables de passer à l'échelle, mais aussi un très haut niveau de sécurité, donc une capacité à gérer de manière très fine les accès, les traces, etc., tous les composants. Donc c'est au regard de ces exigences-là et aussi de l'enjeu de vitesse que nous avons considéré les différentes offres disponibles. On a rencontré une dizaine d'industriels, donc évidemment en commençant par les gros industriels français.
Qui vous ont pas convaincu
Qui n'était pas capable de répondre en particulier aux exigences de sécurité. Suite à toutes ces rencontres-là, il est apparu qu'il n'y avait que Microsoft à l'époque et qui pouvait répondre aux besoins de fonctionnalité et de sécurité. Ce qu'on avait quand même bien en tête, c'est de toute manière de monter cette plateforme avec le niveau de sécurité exigé, quel que soit l'hébergeur qui serait retenu, mais aussi une capacité à être être ce qu'on appelle réversible, c'est-à-dire à pouvoir migrer l'infrastructure chez un autre hébergeur le moment venu. Et donc, on fait des points très régulièrement avec la direction interministérielle du numérique et la direction générale d'entreprise pour suivre le dossier offre cloud souverain, qui est un dossier très important pour l'État, bien évidemment.
Mais on sait aussi, Stéphanie Combe, que le cœur de métier, comme on dit, de ces sociétés, donc Microsoft en l'occurrence, qui assure l'hébergement en masse des données, c'est aussi d'ajouter progressivement ce qu'on appelle des fonctions propriétaires pour empêcher que leurs clients ne puissent migrer facilement vers d'autres plateformes. C'est un groupe privé qui n'a pas intérêt à ce que ces données lui échappent. Mais physiquement, en quelques mots, elles sont stockées où, ces données ?
Les données aujourd'hui, elles sont dans des serveurs qui sont localisés aux Pays-Bas et elles seront très prochainement dans des serveurs qui seront localisés en France.
Et Microsoft étant américain, Yoann Nabak, qu'est-ce qui garantit aujourd'hui qu'il ne va pas à un moment trouver opportun de transférer ces données vers les États-Unis ? C'est une inquiétude que la CNIL a soulevée.
Oui, alors effectivement, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui garantit justement que ça ne transite pas par les États-Unis, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'un stockage, ce qu'on appelle en informatique froid, c'est-à-dire on stockerait les données de manière chiffrée, on les utiliserait pas, simplement on les récupérerait pour les utiliser. C'est pas le cas, c'est ce que fait par exemple l'Allemagne, déjà avec Amazon, ils stockent leurs données sur Amazon, à stockage à froid, donc il n'y a pas de difficulté parce que c'est chiffré, donc Amazon n'a jamais accès aux données déchiffrées.
Et ça change quoi alors là,
en l'occurrence? Là, c'est pas le cas pour le Health Data Hub parce que les services de Microsoft serviront aussi comme serveur de calcul, comme puissance de calcul, si vous voulez. Et donc, les données vont forcément, et ça c'est reconnu à la fois par la CNIL et par le Conseil d'État dans la décision du 19 juin, vont forcément à un moment donné transité par les serveurs américains. Donc le Microsoft peut absolument pas garantir que les données vont rester et ne transiteront jamais par les États-Unis.
Mais quel intérêt, enfin je veux dire, pourquoi les États-Unis s'intéresseraient aux données de santé françaises? Pourquoi la justice américaine notamment s'intéresserait aux données de santé françaises, puisque les opposants à la plateforme invoquent souvent le Cloud Act, cette loi américaine qui permet à la justice de réquisitionner des données hébergées partout dans le monde, c'est pour les besoins d'une enquête criminelle très souvent. A priori, on voit pas pourquoi ça les intéresserait d'aller chercher nos données de santé.
Alors oui, effectivement, vous avez raison, et c'est d'ailleurs l'argument qu'a retenu le Conseil d'État. Il n'a pas censuré sur le fait qu'il n'y aurait a priori pas de circonstances qui feraient que concrètement des données surtout pseudonymisées pourraient permettre aux États-Unis, au gouvernement américain, aux agences fédérales d'avoir accès aux données de santé de Français. Cependant, c'est pas vraiment ça qui est problématique à mon sens, c'est pas vraiment l'histoire du Privacy Shield et de la possibilité et du Cloud Act et la possibilité pour les agences américaines d'y accéder. C'est plutôt le fait que les États-Unis en eux-mêmes ne sont pas un territoire, et ça s'est reconnu par la jurisprudence à la fois de la CNIL et de l'équivalent européen de la CNIL.
Le contrôleur européen de protection des données
tout à fait,
qui a rendu un rapport là, il y a quelques jours.
Et qui justement, à l'occasion d'une décision que la CJUE, donc la Cour de justice de l'Union européenne, a rendu au mois de juillet, a précisé que on ne pouvait pas considérer les États-Unis comme un territoire sûr en matière de données personnelles. Que plus que le Cloud Act, les services de renseignement américains notamment, pouvaient accéder de manière très large aux données qui étaient contenues par des entreprises américaines, et donc que le fait de stocker des données aux États-Unis était en lui-même problématique. Et ça, c'est reconnu donc à la fois par le Conseil d'État, par la CJUE et par la CNIL.
Stéphanie Combe, quel garde-fou vous mettez ?
Alors, du coup, les données sont pas du tout stockées aux États-Unis. Et si on lit très précisément l'ordonnance du Conseil d'État et les avis de la CNIL, ça n'est pas du tout ce qu'ils disent. Ce qui est dit, c'est que quand une activité de maintenance ou d'administration qui serait faite par un employé de Microsoft se fait à distance sur les serveurs, quand bien même aux Pays-Bas, depuis les États-Unis, c'est considéré comme un transfert, le fait de pouvoir visionner des données. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les données qui peuvent être accessibles dans le cas d'une activité de maintenance, ce ne sont pas des données de santé, ça va être des données techniques, des logs, des choses comme ça. Donc c'est par rapport à ces données-là que il y a un risque, entre guillemets, ou en tout cas une possibilité dans des configurations extrêmement rares, par exemple une catastrophe, d'accéder à ces données-là.
C'est pas des configurations extrêmement rares, parce que ce qui est pointé, c'est davantage le fait que on peut pas aujourd'hui traiter des données en elles-mêmes qui sont chiffrées. Le chiffrement, c'est très bien pour le stockage, mais quand on analyse les données, elles sont déchiffrées. On peut pas utiliser et traiter des données qui restent chiffrées.
Quand vous dites traitement, c'est l'étape d'après, c'est-à-dire quand on doit ensuite les croiser,
faire du calcul, etc.
Des transferts de données que vous évoquiez. Après, on peut parler du chiffrement.
Microsoft ne peut absolument pas garantir.
Je vous laisse conclure.
Des administrateurs.
Ouais. Je vous laisse
conclure. Quand des administrateurs doivent accéder à des données clients pour une opération de maintenance dans des conditions qui ont été définies avec le client. Donc nous, en l'occurrence, on a un service qui s'appelle la Logbox qui nous permet de consentir ou non à un accès à des données clients, donc les nôtres. Ce ne sont pas des données de santé auxquelles il y aura un accès qui pourrait être rendu effectif. Donc effectivement, il y a des discussions quand même avec la CNIL parce que les logs, c'est aussi des données personnelles. Sur les clauses contractuelles type qu'il y a dans nos contrats et l'impact de la décision de la Commission de justice, de la Cour de justice, pardon, de l'Union européenne. Mais on n'est pas sur des transferts de données de santé aux États-Unis et c'est absolument pas ce qui est marqué ni dans l'avis de la CNIL ni dans l'ordonnance du Conseil d'État. Donc il faut faire quand même très attention à ce qui est dit.
Je vous laisse réagir, Yoann Naba, en essayant de ne pas être trop technique. C'est pas toujours très facile à suivre. Et puis je ferai réagir Jean-Paul Hamon.
Oui, non, juste en deux mots. Je me suis mal exprimé peut-être en parlant de transfert, mais c'est simplement que les serveurs de Microsoft vont pas être utilisés simplement pour stocker, mais aussi pour faire du calcul, pour faire de l'utilisation du traitement de ces données. Et ce traitement des données, il se fait nécessairement sur des données déchiffrées. Et Microsoft ne pourra pas garantir que lors du traitement des données, lorsqu'on utilise les serveurs pour leur puissance de calcul, ce soit uniquement des serveurs situés en Europe qui feront ce travail de calcul. Donc on peut parfaitement imaginer que ce seront des serveurs situés aux États-Unis qui le feront. Voilà, c'est simplement ça que je disais.
Alors non, vraiment quelques mots s'il vous plaît parce qu'on...
Mais les services, ils sont associés à des localisations géographiques très précises et l'ensemble des services auxquels nous avons souscrit, y compris les services de calcul, sont situés en Union européenne.
Alors ce qui pose question aussi, Stéphanie Combe, au-delà de Microsoft, c'est le fait que ces données soient désormais centralisées. C'est une question technique puisque s'opposent dans la matière deux méthodes différentes, la centralisation et l'interopérabilité des bases de données. Est-ce qu'on reproche au fait que ces données soient vraiment ultra centralisées aujourd'hui par Microsoft, c'est les risques accrus de piratage? Vous disiez tout à l'heure, Jean-Paul Hamon, la confiance que vous aviez dans l'assurance maladie qui n'a jamais trahi le secret médical, qui n'a jamais trahi les données de santé, mais il y a la question du piratage aussi. Je ne sais pas si certains de vos collègues en ont été victimes, mais des hôpitaux régulièrement le sont.
Il n'y a même pas besoin de piratage, si vous voulez. Moi, ce qui m'épate un peu, c'est de voir le laxisme du gouvernement dans l'autorisation de l'utilisation des données de santé. Moi, je pense notamment à Doctolib, où effectivement, c'est très commode. Vous prenez rendez-vous, vous donnez votre portable, vous donnez votre mail, on sait quel médecin vous consultez, on sait à quel rythme vous consultez ce médecin. Bien souvent, quand vous consultez un spécialiste, je prends l'exemple des gynécologues, quand vous prenez rendez-vous, vous devez dire si c'est pour une contraception, si c'est pour un frottis, si c'est pour un cancer ou si c'est pour une chirurgie. Donc vous imaginez que ces données-là sont quand même extrêmement sensibles. Et là, on vient d'apprendre que en fait, ils ont hébergé des données de santé pendant un moment sans être hébergeur de données de santé, que le gouvernement, que ce soit Mounir Majoubi puis Cédric O, ont vraiment servi la soupe à Doctolib parce qu'ils pensent qu'ils détiennent une licorne, etc. Là, on s'aperçoit maintenant que donc les données de santé sont hébergées chez Amazon. Donc tout ça, si vous voulez, est extrêmement inquiétant. Alors je comprends qu'on ait besoin de l'intelligence artificielle et d'avoir une base de données extrêmement importante. Mais personnellement, moi je suis extrêmement inquiet et je pense qu'on aurait pu effectivement sécuriser davantage ce stockage de données. On n'était pas à un an ou deux ans près. Et donner les moyens aux industriels français de d'héberger ces données de santé qui sont effectivement d'une richesse et d'une exploitation au point que je doute fort que les données recueillies par Doctolib ne soient pas utilisées à des fins commerciales dans une autre vie ou même parallèlement. Donc je suis vraiment extrêmement inquiet.
Alors est-ce qu'on peut comparer ces deux choses? Vous évoquez Doctolib, Jean-Paul Hamon. Il y a eu une énorme enquête dans Télérama il y a quelques semaines avec notamment des anciens de Doctolib qui disent par exemple que la question n'est pas de savoir si une méga fuite de données est possible, mais quand elle aura lieu, et d'évoquer par exemple une base de données des patients partagée sans mot de passe sur des clés USB ou via le service d'envoi de fichiers WeTransfer. Mais on est dans un cas différent. Doctolib n'est pas autorisé à héberger des données de santé, ce qui n'est pas le cas de Microsoft. Pour qu'on comprenne bien aussi, Stéphanie Combe, ces données générées par les patients, les médecins et les hôpitaux, qui intéressent-elles? Qui pour l'instant a accès à ces millions de données? Qui y aura accès à terme?
Alors, moi, pour Doctolib, je ne peux vraiment pas m'exprimer, mais s'agissant du US Data Hub, l'idée, c'est vraiment la mise à disposition de données à des porteurs de projets. Donc, les porteurs de projets, eux, ils doivent suivre quand même un circuit qui n'est pas jugé simple, mais qui est justement là pour vérifier que les projets vérifient bien l'intérêt public, sont bien solides sur le plan scientifique. La CNIL va regarder attentivement si le périmètre des données concernées par le projet est bien le bon, c'est-à-dire que si on s'intéresse à une pathologie, on ne demande pas accès à la base en entier.
Mais que des chercheurs, alors ce sont que des chercheurs qui... Quand vous parlez de projets, ce sont des chercheurs.
Enfin, des chercheurs, c'est des projets d'études ou de recherche. Donc après, ça donne pas forcément lieu à un article académique de très haut rang, mais ça va permettre d'éclairer un certain nombre de sujets. Et il y a un comité éthique et scientifique national qui va instruire les dossiers qui sont assez touffus. Et après, il y a la CNIL qui, évidemment, va regarder si le respect de la vie privée est bien garanti. Et ensuite, c'est le US Data Hub, en collaboration avec ses porteurs de projets, qui va assurer le niveau de sécurité des traitements, la traçabilité totale de toutes les requêtes qui seront faites, afin qu'on puisse auditer si les porteurs de projets ont effectivement réalisé les études qu'ils avaient annoncées dans leur dossier. Donc on est sur une configuration qui est quand même assez différente. Et après, les données sont centralisées pour pouvoir facilement permettre des extractions, des chaînages entre différentes sources, mais les porteurs de projets, eux, n'ont accès qu'au périmètre strictement requis pour leur projet et absolument pas aux données des voisins ou à l'ensemble des données de la plateforme. Et c'est pas vraiment, je reviens sur votre propos un peu plus tôt, mais c'est pas vraiment une opposition entre interopérabilité et centralisation, parce que même lorsqu'on centralise des données, on a besoin qu'elles soient interopérables pour pouvoir les chaîner et les enrichir mutuellement. C'est simplement qu'aujourd'hui, les données, elles sont réparties sur l'ensemble du pays. Il y a des centaines et des centaines de bases qui vont être dans des établissements hospitaliers, sur des ordinateurs locaux parfois, dans différentes structures, et qu'on a besoin, si on veut avoir un levier de réutilisation de ces données et atteindre les masses critiques qui sont essentielles pour la robustesse des analyses, de les centraliser. C'est aussi une manière de monter le niveau de sécurité de l'hébergement de toutes ces données de santé, parce que c'est extrêmement onéreux de monter une infrastructure sécurisée, d'avoir une équipe d'opérateurs pour la suivre, hein, parce que moi j'ai une équipe de personnes qui sont payées pour s'assurer, suivre des indicateurs de sécurité, etc. Donc le Health Data Hub apporte aussi cette offre de service aux producteurs de données.
On arrive à la fin de cette émission. Johan Nabas, que vous écrivez dans ce long article que je citais tout à l'heure sur le site de The Conversation, c'est, dites-vous, qu'on peut faire une analogie entre les fichiers de données de santé et ceux qui concernent la sécurité et la justice, analogie dans les finalités de ces fichiers. Et je voulais que vous nous le rappeliez, parce que vous êtes doctorant en droit pénal et sciences criminelles. Vous ne travaillez pas à l'origine spécifiquement sur les fichiers de santé.
Non, totalement. Et d'ailleurs, l'analogie peut paraître un peu incongrue, comme ça, de prime abord. En réalité, elle ne l'est pas. Alors là, je vise davantage les fichiers qui ont été mis en place par le coronavirus, CIDEP et Contact Covid, plus que le Health Data Hub, mais avec l'idée qu'il y a vraiment des points de comparaison possibles. Et moi, ce qui m'intéresse notamment, c'est l'évolution des fichiers de police pour essayer d'imaginer l'évolution des fichiers de santé. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que comme les fichiers CIDEP et Contact Covid ont été défendus sur l'idée qu'il s'agissait uniquement du coronavirus pour des finalités précises bien délimitées, c'est la même chose en matière de fichier de police. Lorsque le fichier des empreintes génétiques a été créé, le FNAEG, en 1998, il a été créé uniquement pour les crimes sexuels, donc ce qui est évidemment une finalité extrêmement précise et restreinte, qui ne concernait que quelques centaines maximum d'individus. Or, d'année en année, et en 20 ans, il s'est énormément étendu, de loi en loi qui ont étendu son champ d'action, son périmètre, sa finalité, et aujourd'hui le FNAEG recueille les données génétiques de quasiment l'intégralité des auteurs de délits et de crimes dans des champs qui sont plus du tout ceux de la criminalité sexuelle. Et donc là où je m'interroge, c'est que ça a été fait au nom d'une finalité qui est un enjeu sécuritaire, et finalement l'enjeu sanitaire, il n'est pas très loin.
Et toujours au nom de l'ordre public, merci beaucoup. En tout cas, je rappelle quand même que Stop Covid a été activé par 2% de la population et qu'il y a seulement 350 000 personnes actives, ça fait 0,5%. C'est pas un grand succès de cette application, mais merci d'avoir rappelé ça. Johan Nabas, on met en ligne votre article sur le site de France Culture. Je vous remercie Stéphanie Combe d'avoir été avec nous, directrice du Health Data Hub. Et je vous remercie Jean-Paul Hamon, médecin généraliste, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Dans un instant, la seconde partie du magazine du week-end.
Means cleavage, cleavage, cleavage. And I start to miss you, baby. Sometimes I've been staying up and drinking in a late night establishment, telling strangers personal things. Somewhere in the city, I'm so lonely, lonely, lonely. So I went to a protest just to rub up against strangers. And I did feel like coming, but I also felt like crying. And it doesn't seem so worth it right now. At a castrated one, standing a corner smoking. They want to feel the bulges in their bands start to rise at the sight of a beautiful woman. They feel nothing but anger. Her skin makes them sick in the night. Nauseous, nauseous, nauseous. Summer in the city, I'm so lonely, lonely, lonely. I've been hallucinating you, babe, at the backs of other women. And I tap on her shoulder and I turn around smiling, but there's no recognition in their eyes. Don't get me wrong, dear. In general, I think I'm doing quite fine. It's just when it's summer in the city and you are long gone from the city, I start to miss you, baby, sometimes. Summer in the city, and you're here. So long gone from the city, I start to miss you, baby, sometimes. Ooh, I start to miss you, baby, sometimes. Ooh, I start to miss you, baby.
La voix de Regina Spektor, Summer in the City, pour tous ceux qui ont passé l'été en ville. Vous écoutez France Culture, il est 13h23.
Le magazine du week-end, Julie Gacon.
C'est un nouveau coup porté à la très puissante loi sur l'air qui existe aux États-Unis depuis 50 ans et plus récemment à des règles environnementales adoptées en 2016 par Barack Obama. Donald Trump a donné jeudi un quasi blanc-seing à l'industrie pétrolière pour ses rejets de méthane. Ce gaz à très fort effet de serre que les producteurs d'or noir laissent parfois fuiter, notamment quand ils abandonnent des puits sans prendre la peine de les sécuriser outre mesure. Donald Trump a donc annoncé réduire les contrôles de ces fuites, manière de soutenir l'industrie pétrolière nationale très touchée par l'effondrement des cours du pétrole pendant la crise sanitaire et par la baisse de la demande mondiale. Bonjour Francis Perrin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, spécialiste des questions énergétiques. Et nous sommes en ligne avec Mathieu Ozano. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur du laboratoire d'idées The Shift Project, présidé par Jean-Marc Jancovici. C'est un think tank qui milite pour une transition vers une économie décarbonée. Et vous avez longtemps, en tant que journaliste, tenu sur les sites du Monde le blog Oilman, chronique du début de la fin du pétrole. Mathieu Ozano, cette décision de Donald Trump, qui était en fait en réflexion depuis plus d'un an, est-ce qu'elle est en mesure véritablement d'aider une industrie pétrolière mal en point? Et qui exactement au sein de cette industrie?
Non, c'est pas ça qui va sauver l'industrie pétrolière américaine de la crise extrêmement profonde qu'elle traverse du fait de la pandémie.
C'est une décision électoraliste, une petite
bouée de sauvetage. C'est largement ça, oui. Je pense que c'est largement ça qu'il y a derrière. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre d'États du Sud, en particulier Texas, Oklahoma, où l'industrie et l'électorat qu'il y a derrière est très puissant, très important en termes de voix et surtout en termes de soutien financier. Et je pense que c'est un signe symbolique envoyé en direction des pétroliers indépendants. Il faut signaler que les grandes compagnies pétrolières, enfin, c'est un peu ambigu, mais disons que les grandes compagnies pétrolières américaines ne saluent pas ce blanc-seing qui a été donné, puisque elles-mêmes elles affichent le fait qu'elles font des efforts pour contrôler les fuites de méthane tout au long de leur chaîne de production.
Comment vont-elles faire leur greenwashing, Francis Perrin, ces compagnies pétrolières? Ça leur coûtait vraiment cher, ces contrôles de fuite du méthane?
Toute réglementation environnementale a un coût, bien sûr. Ensuite, ça ne veut pas dire que c'est ce coût qui met en danger l'industrie pétrolière américaine. Loin de là, notamment les plus grands acteurs de cette industrie. Comme l'a rappelé Mathieu Ozano, il y a différents secteurs dans l'industrie pétrolière. Il y a ce qu'on appelle traditionnellement les majors, donc les plus grandes compagnies pétrolières mondiales, dont américaines évidemment, c'est ExxonMobil numéro 1, c'est Chevron numéro 2, etc. Et puis vous avez d'autres compartiments de sociétés moyennes, plus petites, qu'on appelle souvent historiquement les indépendants, qui évidemment n'ont pas la même puissance financière que les majors pétrolières. Donc avec ou sans Donald Trump, ExxonMobil ne va pas faire faillite en 2020, ni en 2021, ni en 2025, parce qu'ExxonMobil a les reins financiers très solides. Par contre, d'autres acteurs de l'industrie pétrolière américaine sont en difficulté en 2020, non pas avec cette réglementation environnementale, mais avec les conséquences du Covid-19. Et ces conséquences sont doubles pour l'industrie pétrolière: baisse de la consommation pétrolière mondiale et chute des prix. C'est ça qui est important, beaucoup plus que ce que vient d'annoncer Donald Trump. Et ça doit être replacé dans un contexte plus large. Le New York Times a publié récemment un article intéressant où il a montré que depuis que Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche, donc début 2017, il y a une centaine de réglementations environnementales, pas seulement liées au pétrole, hein, globalement. Infrastructures, pétrole, charbon, chasse, pêche, etc. Qui ont, alors, pour partie sauté, 32 selon le compte du New York Times, et d'autres qui sont en train, que l'administration est en train d'essayer de faire sauter. Mais ça, c'est un point clé de la politique de Donald Trump et de son administration depuis 2017. Donald Trump l'a dit à plusieurs reprises, il y a trop de réglementations aux États-Unis, il parle pas seulement du pétrole et du gaz, hein, des énergies fossiles, donc il faut supprimer ces réglementations dont beaucoup sont inutiles, trop coûteuses pour l'industrie. Cette dernière décision s'inscrit plus dans cette volonté de déréglementation de l'économie américaine que seulement par rapport à l'année 2020.
Alors, je ne sais pas si l'industrie pétrolière a les reins aussi solides, comme vous le disiez, Francis Perrin, mais le journal Le Monde, par exemple, a fait le calcul cette semaine de l'ensemble des pertes accusées par les 5 plus grandes compagnies pétrolières, que ce soit la française Total, la britannique BP, les américaines Chevron et ExxonMobil, l'anglo-néerlandaise Shell. À L5, elles enregistrent pour le seul deuxième trimestre de cette année 53 milliards de dollars de pertes. C'est un secteur qui certes est habitué aux oscillations, mais depuis le temps que vous travaillez sur les questions d'énergie, Francis Perrin, est-ce que vous aviez déjà vu ça?
Alors, bien sûr, le deuxième trimestre est un trimestre, c'est le printemps meurtrier. C'est clair, pour une raison très simple, c'est que le deuxième trimestre, c'est la période la plus dure en termes d'impact économique du Covid-19, avec des politiques de confinement de part et d'autre de la planète qui, à un moment donné, selon les estimations de certaines agences de presse, ont touché plus de 4 milliards de personnes.
On s'est beaucoup moins déplacé en voiture, l'activité économique a dégringolé, évidemment. Quand vous confinez les populations,
vous ne vous déplacez pas, donc vous consommez moins de carburant pétrolier, donc la consommation pétrolière mondiale chute. Et donc, évidemment, le secteur pétrolier, mais plein d'autres secteurs aussi, accumulent les pertes. Donc, c'est un secteur, un trimestre tout à fait exceptionnel, sauf que au troisième trimestre et au quatrième trimestre de l'année 2020, sauf si on est dans un scénario de reconfinement généralisé que tout le monde cherche à éviter, il y a des reconfinements locaux, régionaux, etc. Mais si on écarte ce scénario du pire type deuxième trimestre, les résultats des compagnies pétrolières seront meilleurs qu'au second trimestre et au premier trimestre. Et vous avez rappelé le montant des pertes des cinq plus grandes compagnies pétrolières mondiales privées. C'est évidemment, le chiffre est impressionnant, sauf qu'aucune de ces cinq compagnies n'est en danger de faire faillite.
Question néophyte, Mathieu Ozano. On vient d'expliquer avec Francis Perrin que la baisse de consommation de pétrole provoque immédiatement une baisse de la production de pétrole. Comment ça se fait que ce soit aussi immédiat, sachant qu'on nous dit par ailleurs que les stocks sont énormes?
Il y a un ajustement. La demande. Faut quand même rappeler que Francis Perrin l'a souligné. L'effondrement de la demande, c'est quelque chose par sa brutalité, par son ampleur, que on n'avait jamais vu dans l'histoire. Donc il y a beaucoup de producteurs, des gros, des petits, des nationaux, des très locaux, qui ont fermé les vannes pour précisément limiter les pertes dans un contexte où les stocks, comme vous l'avez dit, étaient déjà très élevés. Donc c'était pour eux, que ça soit pour les pays de l'OPEP, pour la Russie, tout comme pour les petits producteurs aux États-Unis, une très mauvaise idée de se dire je ne vais pas réduire ma production précisément à un moment donné où les stocks étaient très élevés, où la demande s'est effondrée.
Quelles autres décisions ont dû être prises par ces industries, donc d'arrêter, enfin en tout cas de réduire la production immédiatement, mais par ailleurs sur les investissements d'avenir, est-ce que c'est toujours aussi intéressant aujourd'hui pour les compagnies pétrolières d'investir par exemple dans l'exploration de nouveaux champs pétroliers? Ouais. Est-ce que vous avez vu, Mathieu Ozano, des compagnies prendre des décisions radicales là-dessus?
Oui, très radical et à nouveau sans précédent.
Par exemple.
L'industrie pétrolière et en gros tout ce qui est investissement de long terme, en particulier dans l'offshore où il faut avoir de la visibilité sur plusieurs années parce que ce sont des investissements qui sont à la fois très importants et très longs à développer avant de pouvoir produire le pétrole. Ce sont des investissements qui ont été très fortement réduits, en particulier par les grandes compagnies privées occidentales, internationales. Et ça pose un problème de pérennité, à mes yeux, de la production future, c'est-à-dire que les investissements étaient compliqués à financer avant la crise du Covid. Cette situation a été aggravée. Il y avait des questions qui se posaient sur la capacité de l'industrie mondiale à continuer à assouvir la demande pétrolière. À moyen terme, c'est-à-dire sur les années futures, l'Agence internationale de l'énergie a pointé ce problème d'un défaut d'investissement, d'un manque d'investissement dans des pétroles qui sont de plus en plus coûteux et complexes à aller chercher. Cette situation a été considérablement aggravée par la crise du Covid, au cours de laquelle, pour réduire leurs pertes en particulier, ou réduire leur exposition au risque, de très très nombreuses compagnies pétrolières ont réduit drastiquement leurs investissements. Donc ça veut dire qu'on est dans une situation où, malgré les engagements climatiques, on n'est toujours pas sevré du pétrole, on n'a toujours pas commencé la cure de sevrage, et on a des dealers de pétrole, si j'ose l'analogie, des compagnies pétrolières qui ne sont pas du tout sûres de pouvoir assouvir la demande dans les années futures. Et ça, c'est une situation très périlleuse à nos yeux au Shift Project. On a l'impression qu'on est rentré dans une espèce de zone marécageuse dans laquelle, au nom du climat, on ne fait pas ce qu'il faut, et en même temps, on a le spectre de contraintes sur les approvisionnements futurs qui feraient l'effet sur un organisme accro au pétrole d'une cure de sevrage subie, brutale.
Et d'ailleurs, quels vont être, Francis Perrin, les effets de la chute des prix du pétrole? Alors certes, les prix du pétrole finissent toujours par remonter, je crois que l'histoire nous l'a toujours appris, on va bien voir ce qu'il en est cette fois. Ils ont remonté, bien sûr, depuis la fin de la crise sanitaire, mais ils ne sont pas à leur niveau d'avant. Cette chute des prix, quels effets à long terme? Parce que dans un premier temps, on peut se dire qu'elle va rendre les énergies fossiles encore plus compétitives et qu'on n'est donc pas du tout sorti de cette dépendance au pétrole.
Alors sur les prix, trois repères de chiffres pour nos auditeurs. Au tout début de l'année, les premiers jours de l'année 2020, on avait un prix du pétrole Brent, qui est produit donc en mer du Nord, donc en Europe, qui était juste en dessous de $70 par baril, hein, 68. Au mois d'avril, ce même Brent, sur l'ensemble du mois d'avril, est tombé à $18 par baril. Ce matin, on est sur la place financière de Londres à 45 pour ce même pétrole brut. Donc on a beaucoup remonté depuis le creux d'avril, mais on est encore très en dessous du niveau du début de l'année pour les prix du pétrole, en l'occurrence le prix du Brent.
Et encore, sur le marché européen, on n'est jamais passé à des prix négatifs comme ça s'est vu aux États-Unis, moins $37 le baril.
Oui, alors ces fameux prix négatifs aux États-Unis, il faudrait les relativiser, ça a duré quand même 2 jours. Hein. Et c'était sur la bourse de New York, le New York Mercantile Exchange. Même aux États-Unis, quand on s'échangeait vraiment du pétrole physique, pas seulement des titres financiers sur le pétrole, le prix a toujours été positif, mais est tombé à un niveau très bas.
Les investisseurs se rappelleront longtemps de cette nuit du 21 avril.
C'est absolument,
ça a dû faire bizarre,
c'est sans précédent. Mmh. Là, il faut, depuis que le NYMEX, donc cette bourse de New York sur laquelle on cote le pétrole et d'autres matières premières existent, on n'avait jamais vu, même pendant 2 jours ou 1 jour et demi, des prix négatifs. Donc c'est absolument sans précédent au sens vraiment propre du terme. Les conséquences, alors, Mathieu Ozano a bien fait l'articulation. Il y a le court terme, le moyen terme, le long terme. Et l'industrie pétrolière et les industries d'énergie, c'est tout ça en même temps. Le court terme, c'est 2020, c'est le Covid-19. Une année extrêmement difficile, mais dont les pétroliers vont sortir pour une raison très simple, c'est que les prix du pétrole ont déjà commencé à remonter et que la consommation pétrolière mondiale a déjà commencé à remonter. Comme le disait Mathieu Ozano, nous sommes drogués au pétrole. Le monde est drogué au pétrole. S'il y a des dealers, c'est parce qu'il y a des clients. Et les clients, c'est le monde entier. Le pétrole, la consommation mondiale de pétrole 2019, donc avant le Covid-19, c'est 100 millions de barils de pétrole par jour, soit 5 milliards de tonnes de pétrole par an. C'est gigantesque. C'est la première énergie la plus consommée dans le monde. Et on n'est pas prêt au niveau mondial de pouvoir dire demain, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, on peut se passer de pétrole, parce qu'on ne peut pas se passer de pétrole dans cette échéance de temps-là. À long terme, c'est différent. Donc le court terme, c'est le Covid-19. C'est allé très mal pour les pétroliers premier semestre. Ça va moins mal maintenant et ça va aller mieux, sauf évidemment nouveau confinement généralisé. Le moyen terme, c'est ce que Mathieu Ozano évoquait tout à l'heure, c'est la question des investissements. Les prix baissent, on réduit les investissements. On le fait en 2020, on l'avait fait en 2015 et 2016, lors d'une phase précédente de chute des prix. Entre l'été 2014 et janvier 2016, les prix du pétrole avaient baissé de 70%. Et les compagnies avaient déjà réduit leurs investissements. Moins d'investissements, ça veut dire dans les années qui viennent, mettons pour aller vite, 2025, moins de production pétrolière que si on avait maintenu les investissements à un niveau plus élevé. Et donc, on revient à ce que disait Mathieu Ozano, risque de manque de pétrole par rapport à la consommation pétrolière mondiale. Ça, c'est le moyen terme. Et le long terme, c'est évidemment la question du changement climatique pour les décennies qui viennent. Et l'industrie pétrolière doit tenir compte des difficultés de court terme, de moyen terme et de long terme. Et c'est pas simple.
Et alors, Mathieu Ozano, est-ce que cette crise est l'occasion pour elle de réfléchir au long terme et notamment de rediriger leurs investissements vers les énergies renouvelables? C'est ce que font de grands pétroliers européens, peut-être moins américains. Je crois qu'il y a quand même un shift transatlantique sur ces questions-là. Mais vers quoi aujourd'hui elles se tournent, les grandes compagnies pétrolières? Et est-ce que c'est l'occasion de leur tordre un peu le bras, en fait, de les inciter à se diriger vers le renouvelable?
Ouais, si tant est que ça soit la question principale. La question principale, ça n'est pas la stratégie des pétroliers, c'est la stratégie des nations qui sont les clientes de ces dealers.
Dépendent de ces importations.
Oui. Alors effectivement, les grandes compagnies pétrolières, enfin certaines grandes compagnies pétrolières occidentales, européennes, essentiellement BP, Shell et Total, tentent de devenir davantage des généralistes de l'énergie plutôt que des pétroliers. C'est une route chaotique pour eux, compliquée. Total investit dans le gaz, Total est broker d'énergie aujourd'hui en électricité. Mais l'essentiel du chiffre d'affaires de ces pétroliers, qui sont des pétroliers depuis peu ou prou un siècle, demeure le pétrole. Pour l'instant, on est sur des évolutions qui sont relativement subsidiaires par rapport à la stratégie de ces pétroliers, qui ont besoin de demeurer encore pour longtemps des pétroliers. Mais ce qui est plus, à mon avis, si vous permettez, plus essentiel comme question, c'est de savoir si on est capable, en particulier nous, Européens, on a parlé des compagnies pétrolières européennes, mais est-ce que nous, Européens, on est capable, on a une stratégie valide pour sortir du pétrole, que ce soit au nom du climat à long terme ou à moyen terme, au nom de potentiels problèmes d'approvisionnement qui sont particulièrement aigus potentiellement pour l'Europe, où il n'aura échappé à personne qu'on n'a toujours pas de pétrole et on a un peu du mal à trouver des idées, en particulier en France, sur ces questions de transition énergétique.
C'est-à-dire que
L'Europe est cernée par des zones pétrolières qui sont soit en déclin, l'Algérie est un cas d'école, l'Afrique, de manière générale, connaît une décrue, on le sait peu, de sa production pétrolière pour des raisons bêtement, j'allais dire, physiques, géologiques ou même écologiques. Les puits se vident. L'Algérie, en particulier, la production nationale algérienne décline. On voit bien que ça pose des problèmes d'approvisionnement pour l'Europe. Si on se rappelle un tout petit peu, si on n'a pas la mémoire trop courte, et qu'on a suivi ce qui s'est passé au Venezuela, on peut se poser aussi des questions sur la pérennité de l'organisation sociale actuelle en Algérie. La Russie, c'est ce qu'on montre dans une étude qu'on vient de publier au Shift Project, la Russie, qui est l'un des trois principaux producteurs pétroliers mondiaux, est en passe d'amorcer un déclin potentiellement irréversible pour des raisons de limites géologiques de sa production. La Russie, c'est un tiers des approvisionnements pétroliers de l'Europe. Donc il faut un peu ouvrir les yeux. Je pense qu'on a été longtemps très très naïf en Europe sur ces questions de transition énergétique, en se disant que c'était un peu pour le climat, uniquement pour des raisons éthiques. Il y a des raisons géostratégiques lourdes qui renforcent la nécessité de sortir du pétrole. Si Monsieur Poutine aujourd'hui envoie ses mercenaires occuper l'un des champs pétroliers principaux de Libye actuellement, ou s'il avance ses pions en Irak, en Syrie, c'est tout sauf pour des raisons de pur prestige de l'Empire russe. Non, il y a des éléments fonciers dans la perpétuation de la puissance d'un certain nombre de grandes nations qui ont été historiquement des grands producteurs pétroliers. Les États-Unis de Trump. Trump a souhaité, dans son programme de 2016, asseoir la domination énergétique des États-Unis. En Europe, on n'a pas d'énergie, on n'a pas ces moyens. Donc, pour nous, c'est une raison supplémentaire de se préoccuper de la pérennité de nos sociétés très, très, très dépendantes du pétrole, au-delà de la question du climat.
Ouais, c'est-à-dire que, puisque vous parlez tous les deux d'addiction au pétrole, est-ce qu'on est prêt, nous, et notamment en France, à un sevrage? On a un système de production qui est encore très dépendant du pétrole. Francis Perrin, les pays producteurs, quelles sont leurs stratégies aujourd'hui? Donc, indépendamment de la stratégie vraiment des industriels, mais les États pétroliers, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent que les prix remontent? C'est ça qui va se passer dans les semaines qui viennent?
Alors, ils attendent que les prix remontent, mais ils ne sont pas en train de prier pour que les prix remontent. Ils agissent pour que les prix remontent. Ça a été la fameuse décision de l'OPEP plus, hein, donc OPEP 13 pays plus 10 pays non-OPEP dont la Russie, qui le 12 avril ont décidé de réduire massivement leur production, notamment sur le second trimestre, pour faire remonter les prix. Et cette décision a d'ailleurs eu des effets sur les marchés pétroliers. Je le rappelais tout à l'heure, le pétrole Brent, $18 en moyenne en avril, $45 aujourd'hui. Donc c'est pas suffisant du point de vue des pétroliers, compagnies ou États, mais il y a eu quand même une remontée extrêmement importante depuis le creux d'avril. Donc leur effectivement stratégie à court terme, c'est de réduire la production mondiale, ce qu'ils ont commencé à faire, pour rééquilibrer le marché pétrolier entre l'offre et la demande. Le Covid-19 a fait, et les réactions des gouvernements, notamment de confinement, cela a fait baisser la consommation pétrolière mondiale. Donc les prix s'effondrent du fait d'une surproduction pétrolière massive, donc on réduit l'offre pour rééquilibrer l'offre et la demande et faire remonter les prix. Raisonnement parfaitement logique, hein, parfaitement irréfutable à court terme, et c'est ce qui est en train de se passer progressivement, même si on n'a pas encore rééquilibré le marché au moment où nous parlons. Pour le reste, sur le long terme, ces pays très dépendants du pétrole, rappelons que l'Algérie, pétrole et gaz naturel, c'est 95% des exportations du pays, hein. Et on peut prendre l'exemple de la Libye, du Venezuela, de d'autres. Vous avez des pays qui dépendent entre 90 et 100% des revenus pétroliers et gaziers en termes d'exportation, ce qui est normal.
Et l'Algérie, justement, en plein mouvement du Irak qui s'est un peu calmé, mais voilà, l'Algérie a été secouée par un grand mouvement de contestation sociale, ne peut pas se permettre aujourd'hui de ne plus recevoir ses...
Absolument.
Même si on sait qu'ensuite cet argent est largement... Ne bénéficie pas aux populations.
Certes.
Mais bon, en tout cas, voilà, il n'y a pas de réflexion dans les pays producteurs aujourd'hui pour engager...
Il y a une réflexion, mais pas suffisamment d'action. quand vous parlez à des dirigeants de ces pays, notamment dans le secteur de l'énergie, vous avez en face de vous des gens qui sont intelligents, qui voient plus loin que le bout de leur nez et qui sont conscients des différents enjeux de moyen et de long terme que nous évoquions. Mais ils sont face à de telles contraintes à court terme, avec un pays qui est tel, dont toute l'économie et donc la société repose sur le pétrole ou le pétrole et le gaz naturel, qu'ils vous disent oui, bien sûr, il faudrait changer, on va essayer de diversifier, mais on va y aller doucement parce qu'on peut pas bousculer des équilibres de court terme. Prenez les Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis est un des pays qui développe le plus l'énergie nucléaire et l'énergie solaire. Et c'est un grand pays pétrolier et gazier, l'un des pays les plus riches du monde, avec un revenu par habitant beaucoup plus élevé que la France et l'Allemagne et tous les pays de l'Union européenne. Donc ils se disent, bon, c'est bien, le pétrole et le gaz, on en a encore pour longtemps, on n'est pas obligé de se diversifier, mais pour différentes raisons stratégiques, climatiques, technologique, c'est bien de montrer qu'on n'est pas seulement un pays qui peut produire du pétrole et du gaz, on va montrer qu'on peut maîtriser le nucléaire et l'énergie solaire. Donc certains pays ont cette vision-là, beaucoup d'autres, notamment ceux qui sont le plus dépendants du pétrole et dont l'économie, la société est la plus, sont les plus troublées actuellement, ont des projets, mais pas forcément grand-chose derrière en termes de plans, de stratégies et de décisions gouvernementales qui leur permettraient d'aller résolument vers un avenir énergétique et économique plus diversifié que ce n'est le cas aujourd'hui.
Mathieu Zano.
Oui, ben, je pense qu'on peut étendre cette comparaison à la France et aux pays européens qui ont des stratégies qui sont tout à fait limitées aussi parce que alors pas dans une mesure comparable à celle de producteurs nationaux comme l'Algérie, mais l'État français lui aussi est accro quelque part aux ressources fiscales. Que représente le pétrole. Et je pense que c'est tout sauf une raison secondaire. La taxe sur les produits pétroliers, c'est la quatrième source de revenus de l'État. Donc l'État est un peu jugé parti dans cette histoire. C'est 35 milliards par an. C'est tout sauf négligeable. C'est un dixième du budget du gouvernement national français. C'est colossal. Et du coup, entreprendre, avoir l'audace d'aller au-delà des péroraisons et des propos de tribune pour dire oui, nous allons être les champions du climat, ça suppose une stratégie foncière, bien comprise par nos concitoyens, de long terme, rationnelle. Et ça, c'est quelque chose qui peut être comparé à une opération à cœur ouvert.
D'autant que les prix du pétrole aujourd'hui ne favorisent pas la transition énergique.
Ils incitent à rester accro.
Les grands projets de rénovation thermique, ils se basent aussi sur des études comparatives. C'est-à-dire, on calcule combien une rénovation de bâtiments publics ou de logements fait économiser aux collectivités, aux particuliers avant de se lancer. Bon, si les prix du pétrole sont bas, c'est forcément pas intéressant.
C'est pas pour rien que le pétrole est devenu l'énergie reine, c'est parce que c'est la plus pratique et la moins coûteuse. Toutes les alternatives, il faut comprendre la transition énergétique, c'est franchir un col historique. C'est chausser les crampons. Et ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il y aura des perdants. Il faut s'occuper des perdants. Toutes les alternatives au pétrole sont plus chères et plus compliquées. On a de très nombreuses raisons d'avoir des conversations adultes performatives sur un sujet qui est un enjeu de pérennité tout simplement de nos sociétés techniques.
Francis Perrin, ça fait combien de temps que vous travaillez sur les questions d'énergie, notamment de pétrole ?
Ça fait plus de 30 ans.
Plus de 30 ans. Et est-ce que vous avez toujours... Est-ce que c'est nouveau, cette prise de conscience qu'on est addict au pétrole et qu'il faut en sortir ?
Non.
C'est pas nouveau.
On le sait depuis des dizaines d'années, ce n'est pas nouveau. Alors, que l'on est addict au pétrole, ce n'est pas du tout nouveau. Par contre, la conviction qu'il faut, sinon sortir du pétrole, du moins réduire la part des énergies fossiles, pétrole, charbon, gaz naturel, n'oublions pas quand même le charbon, qui en termes d'émissions de CO2, c'est quand même beaucoup plus mauvais que le pétrole et beaucoup plus mauvais que le gaz naturel. Donc réduire la part des énergies fossiles pour faire monter en puissance des énergies non carbonées pour lutter contre le changement climatique. Ça, c'est une prise de conscience mondiale plus récente. Il y a une date qui est évidemment une date un peu facile, mais l'accord de Paris, COP21, fin 2015. Ça ne veut pas dire qu'on a tout découvert à Paris, il ne faut pas exagérer, il faut rester modeste. Il y avait depuis 1992 la Convention des Nations Unies, la Convention cadre sur le changement climatique. Donc il faut remonter, disons, au début des années 1990, avec quand même, dans la décennie 2010, un début plus important, plus intéressant de mise en œuvre, mais comme nous l'avons dit, l'un et l'autre, on est très loin du compte aujourd'hui, en août 2020.
Mais je vous remercie beaucoup Francis Perrin d'être venu en parler ici. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS. Et puis Mathieu Ozano, le laboratoire d'idées de Shift Project que vous dirigez travaille régulièrement sur des plans pour sortir de la dépendance au pétrole. J'invite donc les auditeurs à se renseigner sur le site de The Shift Project. Et puis vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage paru en 2015 à La Découverte qui fait référence dans ce domaine hors noir, la grande histoire du pétrole. Merci à vous deux d'être venus dans nos studios. Merci beaucoup. Le magazine du week-end, c'est une émission préparée par Antoine Dulster, Catherine Donnet, Luc Alazo et Léo Grillet, réalisée par Véronique Samouilov. À la prise de son, aujourd'hui, c'était Jordan Fuentes. À bientôt 13h50 sur France Culture, c'est l'heure de retrouver Nicolas Martin pour les idées claires.